Moi, c'est André de Mbujima, au Kassai oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace de dialogue sur Radio Okapi. Dialogue national inclusif, quelles conditions pour en faire un levier de paix durable en RDC? Et c'est le thème de Parole aux auditeurs. C'est jeudi avec Dr Silas Mimil Makangu. Il est professeur à l'Université pédagogique nationale, docteur en géopolitique et relations internationales, consultant en leadership et management. Il est pasteur et auteur. Vous pouvez participer à cette émission, chers auditeurs, en vous enregistrant au 081 32 34 883 ou en nous écrivant à paradiocapi.net ou en nous laissant tout simplement un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs. À la mise en onde de cette émission, Patrick Kiasongwa, le live sur les réseaux sociaux est assuré par Esther Mamboté et David Moussangou. Nancy Atambo est à la réalisation et au standard sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. À la présentation, Jocelyne Moussa Opondé.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
On n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h. Parole aux auditeurs poursuit donc sa série d'émissions autour de l'appel au dialogue national inclusif lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir écouté des acteurs politiques, votre forum du débat citoyen accorde la parole aux acteurs de la vie religieuse et aux scientifiques tout en ouvrant son standard aux auditeurs, auditrices et internautes afin de contribuer à l'éclosion d'un débat démocratique et citoyen en RDC. Que pensez-vous de cette initiative du président de la République? Comment rentabiliser cette initiative pour des résultats escomptés? Selon vous, quels sont les préalables pour organiser dans les conditions requises un dialogue national inclusif en RDC et quelles sont les pistes de solutions pour mettre fin à ces cycles de violence en RDC pour une stabilité pérenne et une paix durable? Parole aux auditeurs aborde cette thématique, je l'ai dit, avec Dr Silas Mimil Makangu, professeur à l'Université pédagogique nationale. Il est docteur en géopolitique, relations internationales, consultant en leadership et management, entrepreneur, pasteur, conférencier, formateur et auteur de plusieurs ouvrages. Il dirige également International Leadership Institute. Professeur Silas, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour madame, merci beaucoup.
Alors, professeur, le président de la République, on l'a dit, a lancé son appel à un dialogue national inclusif aujourd'hui. Le véritable enjeu est-il plus de savoir s'il faut dialoguer ou plutôt comment dialoguer?
Merci madame. Je crois qu'il faille d'abord commencer par apprécier à sa juste valeur cet acte qui relève de la grandeur, de la sagesse, mais aussi à mon avis d'une lecture lucide au regard des événements qui se passent sur terrain, pas seulement sur les territoires nationaux, mais aussi ce qui se vit dans la région. Donc, faire appel à ces dialogues est pour moi un acte de grandeur, parce que le président de la République a jugé mieux répondre à l'appel qu'ont lancé depuis plusieurs années les prélats catholiques et certains religieux, pour dire que la voie qui serait la plus plausible, la voie qui serait la plus productive, serait celle du dialogue. Mmh. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans une crise armée, lorsqu'on fait face à un conflit armé, on n'a que deux voies, deux options pour pouvoir mettre fin à cette option, à ce conflit. Mmh. C'est soit les recours à la violence ou encore les dialogues. Et vous savez que les recours à la violence peut...
La réponse militaire, vous voulez dire?
La réponse militaire,
oui.
Que jusque-là, nous n'avons pas réussi à imposer.
Mm.
Parce que si nos forces armées étaient suffisamment fortes, je pense que nous ne parlerions pas du dialogue. Donc, le dialogue s'avère être la deuxième option. Et cette deuxième option ne doit pas être perçue par l'opinion nationale comme étant une fatalité en soi. Il n'y a que deux options. Soit le recours à la violence ou le recours militaire, ou c'est les dialogues. Alors, puisque nous nous sommes inscrits dans cette logique du dialogue, il s'avère important que l'opinion nationale, que l'opinion internationale puisse mettre ensemble les batteries pour que ces dialogues ne soient pas un dialogue de plus, mais plutôt un dialogue qui apporte un plus.
Mmh.
Car il y a des hésitations. Il y a beaucoup de ces Congolais, de compatriotes qui sont hésitants quant à la recrudescence. Nous sommes comme engagés dans un cycle de dialogues et malheureusement, ces dialogues n'ont jamais apporté de véritables solutions à nos défis et à nos challenges.
Mmh.
Alors, la question ne serait pas de faire la comptabilité des différents dialogues que nous avons eus, mais plutôt de questionner la qualité de ces dialogues.
Mmh.
Il ne suffit pas de s'asseoir autour d'une table, échanger entre protagonistes, entre adversaires, entre belligérants, pour pouvoir parler d'un véritable dialogue. Parce qu'un dialogue se définit à trois niveaux. Premier niveau, c'est le niveau du pré-dialogue. C'est le niveau des préalables. Sur autour de quoi allons-nous échanger? Qui vont être les acteurs? Combien de temps va durer le dialogue? Et quelles seront les thématiques qui vont être évoquées dans ces dialogues? Alors, la deuxième phase, c'est la phase du déroulement lui-même. C'est la phase du déroulement lui-même. Et enfin, la troisième phase, madame, qui est la plus importante, phase qu'on a toujours négligée dans les précédents dialogues que nous avons eus depuis notre accession à la souveraineté internationale jusqu'au dernier dialogue de Saint-Sylvestre, c'est la phase de la mise en exécution. C'est la phase de mécanisme de suivi. Des résolutions ont été prises, que ce soit la conférence nationale souveraine. Des résolutions ont été prises lors des deux derniers dialogues, pilotés par Eden Kodjo, mais aussi par la CENCO. Ce qui fait que les dialogues deviennent récurrents, c'est parce que la plupart de nos dialogues n'ont été amorcés qu'en partie. Une fois qu'on a distribué les postes,
C'est comme ça que sont perçus les différents dialogues dans le pays comme un partage de pouvoir, plutôt qu'une recherche de solutions durables pour le pays.
C'est comme ça qu'il faudrait définir les termes de référence en amont.
Mmh.
Il faudrait définir l'issue du dialogue avant d'amorcer les dialogues. Parce qu'il y a les réalités politiciennes qui, elles, se limitent autour du dispatching de postes et de fonctions.
Mmh.
Il y a aussi les réalités d'ordre sécuritaire. Ces dialogues, par exemple, que le président de la République a évoqué, qu'il va convoquer certainement dans les premiers jours au travers d'une ordonnance présidentielle, devraient être un dialogue qui apporte un plus et non pas un dialogue de plus. Et ces dialogues ne devraient pas être perçus, comme j'entends certains le croire, comme un bâton magique qui à lui seul mettait fin à tous nos problèmes. Nous sommes en face d'une crise multiforme, madame. Nous sommes en face d'une crise multidimensionnelle. Nous sommes en face d'une crise qui est plus vieille que l'actuel gouvernement ou encore que l'actuel régime. Alors, les dialogues devraient plutôt servir aux uns et aux autres des cadres pour s'asseoir, échanger, dans la mesure du possible pour réfléchir, qu'est-ce qui fait que 66 ans après notre accession à la souveraineté internationale, nous ayons encore du mal à résoudre par nous-mêmes nos propres problèmes.
Mais on sent une certaine méfiance entre les acteurs politique, avant même à l'annonce même de ces dialogues et avant
normal,
même
madame.
Cette annonce. Mais comment arriver à créer un climat de confiance avant même l'ouverture de ces dialogues?
S'il n'y a pas de méfiance, je ne vois pas pourquoi il y aurait dialogue. Justement, l'un des buts assignés au dialogue, c'est de créer ces climats de méfiance. Et le climat de méfiance est naturel, d'autant plus que nous parlons des protagonistes. C'est ici qu'il faudrait rappeler, madame, que le dialogue n'est pas une messe ou encore un échange entre des intimes. Ce n'est pas un échange entre mari et femme dans leur chambre à coucher. Le dialogue n'est non plus un échange organisé par des anges en faveur des anges. C'est-à-dire, on dialogue avec ses adversaires. On dialogue avec ses ennemis, on dialogue avec ceux-là avec qui on ne partage pas une même opinion. Donc la méfiance, au départ, elle est tout à fait normale. Et c'est ici que doit maintenant jouer, c'est ici que la médiation doit jouer sa partition. L'un des rôles reconnus à la médiation, c'est justement de créer ces climats de confiance. Ces climats de confiance n'empêchent pas aux uns et aux autres de pouvoir être sur leur garde et être prudent. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où ce dialogue ne sera pas le premier. Il y a eu plusieurs précédents et qui a fait que ces différents dialogues qui ont été abordés dans les temps passés n'ont pas abouti parce qu'il y a eu des combines, il y a eu des stratagèmes, parce qu'il y a eu des agendas cachés. C'est ce dialogue qui nécessitera une médiation qui se doit à la fois impartiale, mais aussi lucide, pour que la médiation ne tombe pas sous les pièges, dans les pièges de politique, qui dirait une chose et penserait à autre chose.
Tout à fait.
Donc, cette médiation que je souhaiterais à trois niveaux. Pourquoi à trois niveaux? Parce que la crise congolaise n'est plus que congolaise. C'est une crise qui s'est régionalisée. C'est une crise qui aujourd'hui nécessite aussi l'implication de la communauté internationale. Premier niveau de la médiation, c'est cette médiation nationale, pilotée par les évêques des églises, le leader religieux, SCC Senko, Église des Réveils. Deuxième niveau, c'est au niveau régional. Pourquoi au niveau régional? Parce que on ne peut pas prétendre résoudre la crise qui sévit aujourd'hui en République démocratique du Congo sans questionner l'implication de certains États voisins.
Vous pensez qu'il faut un mécanisme diplomatique parallèle avec les pays voisins?
Il le faut. Il le faut parce que la crise congolaise s'est régionalisée, elle s'est métastasée. C'est-à-dire, la région se considère aussi en insécurité au regard de l'usure de cette crise. D'où il faudrait l'impliquer, parce qu'il y a des acteurs directs et des acteurs indirects. On ne peut pas aujourd'hui, au travers de ces dialogues, échanger et penser à un avenir de paix sans impliquer et sans amener le Rwanda, par exemple, à reconnaître son forfait, à reconnaître son implication négative. On ne peut pas aujourd'hui attendre, discuter dans ces dialogues sans rassurer les partenaires de la région, l'Angola, l'Ouganda, le Kenya et autres, le Burundi, mais aussi, étant donné que la République démocratique du Congo, madame, est perçue par la communauté internationale, non pas simplement comme un acteur dans les relations internationales, mais aussi comme étant un enjeu géopolitique, il est tout à fait normal que la communauté internationale, au travers de l'Union européenne, au travers de grandes puissances telles que les États-Unis d'Amérique et même la Chine, se voie aussi quelque part impliquée pour une résolution pacifique et durable. J'insiste et je persiste, le dialogue n'est pas un bâton magique, c'est pas par un claquement de doigts que l'on mettra fin à tous les problèmes qui sont nôtres. Mais néanmoins, ce dialogue pourrait nous permettre à nous regarder droit dans les yeux et à penser, à commencer d'abord par diagnostiquer les causes profondes, lointaines, mais aussi les causes proches et immédiates qui font à ce que le Congo soit encore à ce niveau en dépit de 66 ans que nous avons connus depuis notre accession à l'indépendance. Ce dialogue voudrait demander à ce que nous ne pouvons pas avoir des problèmes multiformes et multidimensionnels et attendre que ceux-là qui ont été à la base du problème soient eux-mêmes aussi ceux qui apportent la solution. D'où il faudrait ouvrir des brèches, donner aussi de la place, donner aussi une marge de manœuvre aux experts. Parce que les problèmes du Congo ne sont pas que politiques. Il y a certains problèmes qui relèvent de la géopolitique.
Et quand vous parlez des experts, vous faites allusion à qui?
Je fais allusion aux scientifiques. Je fais allusion aux scientifiques. Parce que l'une des choses qui ne manque pas au Congo, mais qui malheureusement est sous-utilisée ou encore mise à l'écart, ce sont les intelligences. Le Congo dispose d'intelligence. Mais seulement ce qu'il faudrait aujourd'hui, madame, c'est qu'il faudrait éviter cette politique de la caporalisation, où l'on amène les experts à répéter, à être la caisse des résonances de ce qui s'est dit dans les quartiers généraux des partis politiques. Laissez aux scientifiques, laissez aux experts congolais de penser l'avenir du Congo. Parce que nous ne pouvons pas continuer à prétendre être un État souverain dès lors que nous ne sommes pas capables de trouver par nous-mêmes les solutions aux problèmes qui sont le nôtre. Donc ce dialogue ne doit pas seulement être une rencontre entre acteurs politiques. Il faudrait que ce dialogue implique toutes les forces vives de la République. Mais, madame, le fait de se retrouver autour de la table entre acteurs politiques, entre acteurs de la société civile et experts, ne suffit pas à lui seul. Il faudrait se rassurer que cette fois-ci, nous mettrons en place des mécanismes de suivi pour vérifier l'application de ce qui aurait été pris comme...
Cela n'a pas été fait pour le précédent dialogue.
Ça a été fait, mais c'était resté des lettres mortes. C'était des institutions. Je parle du CENSA, par exemple. Rappelez-vous du Comité international de suivi pour la transition. Au fait, c'est ça notre péché. Je vous ramène...
Et vous pensez que cette fois-ci, ça va changer? Qu'est-ce qui garantit que
aujourd'hui... Tout dépend de notre maturité que nous avons acquise dans l'entretemps. Tout dépend de notre capacité à faire de ces dialogues un dialogue qui apporte un plus et non pas un dialogue de plus. Voyez-vous? Donc, nous avons entre nos mains le destin de ces pays. C'est ici que nous pouvons lancer un appel aux acteurs politiques.
On va y revenir, professeur, mais il est temps pour nous de prendre d'abord plusieurs auditeurs qui attendent pour intervenir dans cette émission. Ornicar Banza et Ali Kassi, Adioko Robert Abunia, Marie-Paul Awa qui Kisangani, Mina Mwanda Bukavu, Pati Maimba dans le Bandundu et Evariste Kabemba Mbujima. Et nous commençons avec Ornicar Banza. Prenez la précaution d'activer votre micro et d'être dans un endroit calme pour pouvoir intervenir dans cette émission. En Icar Banza, bonjour, vous êtes à Likassi.
Bonjour maman Jocelyne Moussao, bonjour à notre invité pasteur. Merci beaucoup, maman. Je crois que je suis d'avis en grande partie avec l'invité du jour. J'estime aussi particulièrement que ce dialogue ici, nécessairement, c'est l'acte posé par le président de la République est un acte à louer nécessairement parce que il a fallu nécessairement que nous ayons ce dialogue-là. Mais au moins, il serait aussi plus important que ce dialogue soit nécessairement inclusif, nécessairement aussi globalisant. Et à ce niveau-là, ça peut être aussi salutaire. Mais si nous avons un dialogue qui a des caractères exclusifs, je crois que cela pourrait aussi déséquilibrer parce que c'est pas longtemps, à l'édition du mardi, nous avons suivi l'honorable Dieudonné Kissi qui disait que si les dialogues pouvaient être inclusifs, cela pourrait poser un problème. Alors, l'inclusivité, je crois que ça va résoudre le problème. En ce qui concerne les participants nécessairement à ces dialogues, je crois que ce qui est vrai, il serait aussi plus important que ces participants s'y amènent beaucoup plus avec des propositions et non des positions parce que quand on a une seule position, je crois que ça va aussi bloquer. Et ils doivent aussi être tolérants et ils doivent aussi avoir dans leur tête que nous avons un dénominateur commun qui est la République démocratique du Congo. Par rapport au pasteur, notre invité qui a dit aussi que la guerre de l'Est s'est régionalisée, je suis encore d'accord avec lui. Moi, je crois aussi que dans sa manière de voir les choses en ce qui concerne les dialogues, j'aurais voulu à ce que nous commencions d'abord par dialoguer au niveau interne, ce qui pourra nous permettre à être forts afin que nous abordions nécessairement la région avec une force qui réduit les frustrations au niveau interne. Mais maman Jocelyne, ce qui est aussi réel, c'est que tout dépendra de la bonne volonté des politiciens. Il a aussi relevé cela parce qu'on ne doit pas avoir, on doit avoir un dialogue qui doit faire de sorte que nous respections toutes les résolutions qui vont en découler à la ligne. C'est vrai que les autres dialogues, l'unique résolution qui était respectée, c'est le partage des gâteaux. Mmh. Mais j'estime que cette fois-ci, peut-être qu'il faut nécessairement mettre sur pied des conditions et des mécanismes pour que nous respections tout ce qui aura en découlé comme résolution.
Merci. Merci, Ornicar Banza, pour votre intervention. Nous allons écouter Adjoukou Robert, qui est à Bounia. Bonjour.
Bonjour, madame la journaliste. Vous me suivez?
On vous écoute, monsieur Adjoukou Robert. Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Je commence par présenter mes condoléances au peuple congolais. La guerre nous fait mourir de partout, comme si ça ne suffisait pas, Ebola, les noyades et autres choses. Hommage à l'État pour avoir accepté ce dialogue. L'invité que je salue très chaleureusement et que je félicite aussi la radio Okapi. Merci. Le dialogue a beaucoup de vertus. Le dialogue donne l'occasion de se rapprocher. Quand on se rapproche, on se comprend. Quand on se comprend, finalement, on se respecte. Je vais tout droit aux solutions. Madame la journaliste, j'ai beaucoup de renseignements. Pour votre information, j'étais député national pendant la transition de 1+4, de 2003 à 2006. Après, j'ai travaillé au cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup de renseignements, je suis en Ituri. Nous ne devons pas perdre de vie, comme l'invité venait de le dire. Nous sommes victimes d'un vaste complot international. Il y a certaines puissances, je pèse mes mots, certaines puissances extérieures et même les pays voisins, ils veulent nous maintenir dans la dépendance et dans la pauvreté. Parce qu'en fait, avec toutes les potentialités dont le bon Dieu nous a dotés, je vous assure, madame, si nous sommes dans la paix et avec la volonté politique, on peut développer ce pays très rapidement. Au cours du dialogue, je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité.
Oui.
Il faut qu'on se dise la vérité. Nous devons éviter la peur. Des deux, à guise de sanctions morales et psychologiques, tous les États qui nous agressent là et tous ceux qui soutiennent les groupes rebelles, à guise de sanctions morales et psychologiques, nous devons les dénoncer publiquement. Donc nous invitons tous les acteurs politiques à faire preuve de courage, comme vous le savez, la vérité et la justice, ce sont vraiment des vertus bibliques, nous devons en faire preuve. Il faut aussi encourager, il faut encourager les chefs de l'État, la diplomatie est très très importante. Après tout, les pays voisins, ce sont nos frères. Les Rwanda, l'Ouganda, Centrafrique et les autres, ce sont nos frères. Nous devons chercher la paix avec tout le monde. Les frères directs, c'est celui avec qui vous devez compatir et pour que le développement puisse avoir lieu. Jusque là, je ne comprends rien.
Merci.
Cette position du Rwanda. Alors, vraiment, nous encourageons ce dialogue. Nous, les anciens gestionnaires, si on estime nécessaire, nous sommes prêts aussi à participer. Comme je vous le disais, nous avons beaucoup de renseignements.
Merci.
Pour ce qui concerne l'Ituri, il faut encourager les gouverneurs. Présentement, par exemple, nos deux frères, Lendu et Hema, sont en dialogue. Vraiment, nous félicitons. Les serviteurs de Dieu sont aussi en train de les soutenir. Le dialogue a beaucoup de vertus. Il faut qu'on fasse la même chose à Maniema. Dernièrement, nous avons appris que deux groupes rebelles sont en train de s'entretuer. Et dans l'entretemps, pendant qu'on fait la conférence, nos frères de Nord Kivu, de Sud Kivu doivent se réunir aussi pour analyser les questions en profondeur. Parce qu'en fait, il y a toujours des traîtres. Il y a des traîtres. Le régime actuel a hérité d'une situation très compliquée. Souvent, j'ai l'habitude de déclarer ça. Nous qui étions au Parlement, par exemple, un honorable député a voté une résolution pour qu'on puisse ficher, identifier tous les militaires intégrés, les policiers et ceux qui sont dans les services de sécurité. Malheureusement, cette initiative a été bloquée.
Merci. Je ne saurais pas vous dire par qui. Adjoukou Robert, vous avez parlé pendant 3 minutes. Je crois que vous êtes suffisamment exprimé pendant 3 minutes. Nous allons aussi accorder la parole à d'autres personnes qui attendent. Marie-Paul Awa et Taki Sangani. Bonjour. Marie-Paul Awa, veuillez activer votre micro et prendre la parole. S'il n'est pas prêt.
Oui, merci beaucoup, madame.
Oui.
Bonjour. Allô, madame.
Allô, oui. Bonjour, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup, madame, pour la parole. Oui, merci pour la parole. Je salue tous les auditeurs, je salue votre invité. Et je dis son intervention est vraiment salutaire. Alors, à ce qui me concerne, madame, le moins que j'ai l'on puisse dire à ce niveau de débat, c'est que l'idée des dialogues nationaux en RDC relève bel et bien du réalisme des relations internationales telles que les sous-tend bien évidemment la charte des Nations Unies, mais aussi la charte ou la charte de l'Union africaine. Et toutes ces dispositions, toutes ces organisations demandent, prêchent aux États à aller dans les dialogues nécessairement pour trouver solution à leur bellicosité, à leur problème, à leur guerre qu'ils ont dans leur territoire nationaux. Alors, madame, comme vous le savez bien, la situation de la RDC, nous le disons aujourd'hui, ce n'est pas une situation qui commence maintenant. La guerre en RDC, c'est une guerre qui est sirenée, c'est une conflictualité qui a pris beaucoup de temps. Et les dialogues, nous les convoquons, nous les disons aujourd'hui, ce n'est pas la première expérience. Nous sommes passés dans plusieurs dialogues. Et si on se met à examiner, à évaluer tous ces dialogues, nous nous rendons compte que la plupart des dialogues n'ont pas produit ces effets escomptés, pour bien évidemment des raisons de l'applicabilité des clauses ou des dispositions arrêtées dans ces dialogues-là. Alors, les dialogues dont nous parlons maintenant, madame, permettez-moi de vous dire que jusqu'à présent, ce n'est pas encore officiel, c'est officier. Parce que nous avons appris.
Marie-Paul Awa, est-ce que vous êtes encore avec nous en ligne? Malheureusement, on n'arrive plus à vous suivre. On va peut-être revenir à vous, mais en attendant, on prend le coup de fil de Emina Mwanda. Bonjour Emina. On a certainement un problème de liaison avec tous les auditeurs. Patty Maïmba également en ligne, Évariste Kabemba. La réalisation nous dira si on peut encore prendre quelqu'un. On accorde la parole à Patty Maïmba qui est dans le Bandundu. Patty Maïmba, si vous nous écoutez, activez votre micro, placez-vous à un endroit plus ou moins calme pour pouvoir bien échanger avec nous. Bonjour. Non. Vous avez plutôt désactivé votre micro, Patty Maïmba. Activez-le et prenez la parole. Bon, on va permettre à l'invité de répondre. Il y a Éminent qui est là. On va tenter une dernière fois avec les auditeurs, hein. Sinon, on accorde la parole à l'invité pour pouvoir réagir à toutes ces interventions. Éminent Mwanda, est-ce que vous nous écoutez? Non, on va le temps de régler ça. L'invité va réagir aux interventions de Ornica Banza qui soutient le dialogue, qui insiste sur la tolérance, des propositions concrètes et il suggère que le dialogue se fasse d'abord au niveau interne, hein, avant d'étendre à la sous-région et à la communauté internationale. À Diokou Robert, qui insiste aussi sur les sanctions contre les groupes rebelles et les États complices, soutient la diplomatie en parallèle de ce dialogue. Marie-Paul, on a perdu malheureusement Marie-Paul Awa, qui n'a pas pu terminer son propos. On va d'abord accorder la parole à l'invité avant de prendre les auditeurs.
Merci madame, je tenais avant tout à remercier ces différents compatriotes pour l'attention qu'ont bien soutenue qu'ils ont accordée à cet échange. Mmh. Je commencerai avec notre ami Ornica Delicacy. Évidemment, il faudrait que ce dialogue soit inclusif. Et cette inclusivité devrait se faire en tenant compte des deux aspects. De la contribution que chaque participant pourrait apporter, mais aussi de l'incidence que pourrait avoir l'absence ou la marginalisation d'un des acteurs. On ne fait pas les dialogues, comme je l'ai dit tantôt, entre potes, on dialogue avec les protagonistes. On ne s'assoit pas autour d'une table parce qu'on s'aime bien, mais on s'assoit aussi autour d'une table pour arracher à l'autre le prétexte de continuer à nuire ou à déstabiliser. C'est ici que je pense, à mon avis, qu'il serait judicieux, qu'il serait important, quand bien même ça serait une pilule amère, difficile à avaler, mais je ne vois pas l'issue de ces dialogues. Nous conduire vers un climat de paix sans impliquer ceux-là qui ont pris les armes. Mmh. Et ici, je veux faire un raccordement avec ce que notre ami de Bounia a dit, qu'il fallait sanctionner les groupes armés. La meilleure sanction qu'un État puisse réserver aux groupes armés, c'est toujours en amont du dialogue. Pourquoi est-ce que l'on dialogue? L'on dialogue quelque part parce que l'État, au travers de ces institutions, n'a pas été à mesure d'étouffer à la source les velléités rebelles. N'a pas été à mesure, dès l'instant que les rebelles, certains des compatriotes ont recouru aux armes, l'État n'a pas eu les moyens nécessaires de les mater dès la base. Mmh. Je vous donne 2-3 exemples. Nous avons eu la guerre de Moba 1 en 84. Mmh. Nous avons eu la guerre de Moba 2. En 85, les Zaïre de Mobutu n'a pas procédé aux échanges ou aux dialogues avec le Laurent Désiré Kabila. Mmh. Pourquoi? Parce que grâce à la coopération avec le Maroc et aussi l'implication de quelques troupes françaises, on a réussi à éradiquer ces mouvements rebelles et Kabila a été obligé d'aller se réfugier en Tanzanie. Donc dès l'instant que militairement les rebelles ont été vaincus, il n'y a donc pas lieu de convoquer un quelconque dialogue. Nous revenons en 67, en 77 et même en 66 avec la rébellion menée par le Front National de la Libération du Congo, par Mboum Nathanaël, qui avait aussi le soutien de l'Angola. Neto a soutenu en 78 Alberto Neto, l'ancien président angolais, a soutenu ce mouvement rebelle du Front National de la Libération du Congo mené par Mboum Nathanaël. Mais puisque le Zaïre de Mobutu, une fois de plus, bénéficiant de la Légion française, mais aussi des troupes parachutistes belges, on a réussi à les faire partir de la ville de Kolwezi qu'ils avaient puis conquérir, on n'a donc pas eu besoin de dialoguer. L'on ne dialogue pas parce qu'on veut faire plaisir
aux uns et aux autres.
À ceux-là qui ont pris les armes. Mm. L'on dialogue parce que soit l'État estime que les recours à la répression, les recours à la force militaire causeraient plus de dégâts. Ou encore, lorsque l'État a l'élégance de reconnaître que militairement parlant, il n'est pas à même de venir à bout de ces rébellions. Donc, la deuxième option, telle que préconisée par la charte de l'ONU, comme l'a dit mon cher ami Robert de Bounia, c'est alors que l'État serait dans l'obligation, malgré lui, de pouvoir s'asseoir et de négocier. Pourquoi? Parce que, madame, le statu quo, l'usure de ces conflits, ne profite ni à la République, ni à la population congolaise. N'est pas faire venir ceux-là qui ont pris les armes serait une façon pour nous, une façon tacite, de dresser les lits pour cet esprit de la balkanisation qui nous a toujours hantés depuis notre accession à la souveraineté internationale. Donc, dialoguer ne serait pas une prime, ne serait pas un cadeau que l'on fait aux autres.
Merci. Merci, professeur. On va reprendre les auditeurs qu'on a perdu tantôt. Éminent Mwanda est en ligne. J'espère que, en accord avec la réalisation, on peut l'écouter. S'il a son micro désactivé, il peut l'activer. Son micro est activé, je pense. Bonjour, Éminent Mwanda. On le voit en ligne, mais on ne l'entend pas. Éminent Mwanda, vous êtes en ligne, vous pouvez prendre la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît. Sinon, on reprend Patti Maïmba. Je rappelle aux auditeurs que dès qu'ils sont en ligne, dès qu'ils sont en contact avec notre standard, qu'ils puissent prendre des précautions et nous suivre attentivement pour suivre les instructions. activer le micro quand il faut prendre la parole, sinon on perd beaucoup de temps dans cette émission qui n'a que 55 minutes. Si Emina Mwanda et Patty Maïmba ne sont toujours pas prêts, on peut prendre Évariste Kabimba.
Allô, je suis là.
Emina Mwanda ou Patty Maïmba, bonjour.
Je suis là, madame.
Bonjour.
Bonjour, madame. Bonjour, je suis là.
Allez-y, vous avez la parole.
Oui, je vous salue et je salue l'invité ainsi qu'à l'équipe qui réalise l'émission. Je vais juste donner quelques observations, soit des réponses à ces quatre questions qui font objet de notre débat d'aujourd'hui.
Allez-y, soyez un peu bref, parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent. Soyez direct.
Oui, merci beaucoup. Le dialogue ne doit pas être vraiment une rencontre politique, mais un véritable engagement national en faveur de la paix, de la sécurité et du développement. Les recommandations qui en sortiront devront être appliquées avec rigueur pour répondre aux attentes de la population. J'ai bien suivi l'invité disant que le dialogue ne peut pas être considéré comme un cadeau qu'on doit donner à une partie, et sinon, même... pendant le moment le plus difficile, on peut recourir même à des pratiques anciennes. Parce que j'avais encore donné cette proposition quand on avait débattu la question du dialogue dans Radio Okapi. Madame, quand la maison est en train de brûler, même avec les délots sales, on peut vouloir éteindre les feux. C'est pour cela que exclure certaines parties pour telle ou telle raison ne peut pas nous aider à avoir vraiment une paix durable. Parce que nous avions déjà connu beaucoup de dialogues, comme on l'a dit la fois passée lors de l'émission Parole aux auditeurs le mardi. Mmh. Oui, mais il faut faire ce dialogue-là avec des objectifs. Et en définissant ces objectifs-là, qu'on peut réellement trouver une paix durable. Les gens de l'Est réellement souffrent et l'invité vient de dire que on a recours au dialogue, madame, c'est pour éviter des dégâts graves, des graves dégâts que les armes peuvent causer. Alors, parce que les combats détruisent beaucoup de choses. C'est pour cela que beaucoup de pays recourent au dialogue ici en cas de conflit. Je pense que il y a encore beaucoup d'auditeurs qui attendent, mais à ce niveau de débat, je peux d'abord me limiter là. Mais vraiment, nous sommes pour le dialogue, mais il faut que les objectifs soient bien définis.
Merci beaucoup, Emina Mwanda. Patty Maïmba, est-ce qu'il est en ligne? Si oui, activez votre micro, Patty Maïmba, et prenez la parole. Est-ce que vous nous suivez? Apparemment, non. Hey, il est là, Patty Maïmba. Patty Maïmba, bonjour. Vous êtes déjà en ligne, Patty Maïmba. Ne fermez pas votre micro. Prenez la parole, s'il vous plaît, et gagnons un peu le temps. On va accorder la parole à Évariste Kabimba en attendant de retrouver Patty Maïmba. Évariste Kabimba est à Mbujimayi. Bonjour.
Oui, bonjour Tantine. Malgré que les réseaux se robotisent, sauf que la parole est à moi aussitôt. Merci beaucoup. C'est vraiment capital, c'est vraiment impérieux d'entretenir sur des sujets pareils.
Allez-y, allez droit Tantine, au but, Félix Moulumba.
Oui, Tantine, c'est Évariste Kabimba qui a la parole.
Ah, Évariste Kabimba, on vous écoute.
Ok, merci beaucoup, Tantine, de la parole. Je dis que malgré tout ce que nous pouvons faire, malgré tout ce que nous pouvons dire, mais ce pays n'appartient pas à une seule personne ou ce pays n'appartient pas à un groupe de gens, ce pays n'appartient pas à une seule province, ce pays n'appartient pas à 14 provinces, ce pays appartient à toutes les provinces de la République démocratique du Congo, et ce pays appartient à tout le monde. Lorsqu'on parle d'un dialogue national, c'est clair et c'est simple d'ailleurs. Il y a une partie qui est au pouvoir et une autre partie qui est du côté appelé communément opposition. À partir du moment où une partie observe que certaines histoires ne marchent pas comme il se doit. Étant donné que nous sommes tous les humains, nous sommes les imparfaits, nous sommes censés de rester autour d'une seule table, dialoguer pour mettre quand même un terme à ce qui gangrène la nation. Ce n'est pas pour dire que quand on cherche un dialogue, c'est pour attribuer, bon, on peut toujours attribuer les postes aux gens quand cela ne tienne.
Mais quelles conditions, Évariste Moulumba, quelles conditions pour que ce dialogue national soit un levier de paix durable en RDC?
C'est Évariste Kabemba et non Évariste Moulumba, ok. Les conditions... pour que ce dialogue soit un dialogue appelé national inclusif, il faut réunir tout le monde. Il faut que les acteurs majeurs, hein, surtout les acteurs majeurs de politique, leur présence est vraiment importante dans ce dialogue. Il ne faut pas exclure aucun acteur majeur. Ça, j'ai dit tantine. Et il faut associer tout le monde, sans exception, l'opposition, la majorité, les confessions religieuses, les jeunes, les femmes, les représentants de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Ça va faire à ce que les pays trouvent quand même un but à ce dialogue. Sinon, si on ne fait pas ça, ça va toujours aller de gauche à droite.
Merci.
Merci beaucoup. Je ne voulais pas monopoliser la parole parce que les autres attendent aussi avec leurs interventions.
Merci. Merci bien. Merci Évariste Kabemba et on retrouve Félix Moulumba à Kananga. Bonjour.
Je suis Moussa Mponde. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Bonjour, vous avez la parole Félix Moulumba.
Je considère que l'initiative du président de la République, Félix Tshisekedi, peut être une opportunité importante hein, pour rechercher la cohésion nationale, mais à condition qu'elle ne soit pas perçue comme un simple rendez-vous politique de plus. Aujourd'hui, le peuple congolais attend surtout des résultats concrets en matière de sécurité, de justice, de gouvernance et de développement. Pour rentabiliser cette initiative, selon moi, il faudrait que le dialogue ait des objectifs clairs, un calendrier précis et des engagements mesurables. Vous savez, les conclusions ne doivent pas rester dans des rapports, hein, mais être suivies par un mécanisme indépendant d'évaluation et de mise en œuvre. À mon avis, les préalables essentiels que je peux donner, c'est matérialiser sur un climat de confiance entre les acteurs, l'inclusion réelle des forces politiques, de la société civile, des confessions religieuses, des femmes, des jeunes et des victimes des conflits, mais aussi respecter la constitution surtout hein, et de la légitimité des institutions. Pour mettre fin durablement aux violences, je pense qu'il faut, bien entendu, combiner l'action militaire, la réforme de la gouvernance locale, mais aussi lutter contre l'impunité. Le contrôle des ressources naturelles doit être inclus et aussi la création d'opportunités économiques pour les jeunes. Parce que vous le savez, aujourd'hui, sans justice et sans développement, nous en parlons chaque jour, la paix risque de rester fragile. Une question à l'invité, professeur
Silas. Oui.
Une question. Ouais, professeur Silas, dans un contexte où plusieurs dialogues organisés ici en République démocratique du Congo ont produit des recommandations peu appliquées, quels mécanismes institutionnels peuvent garantir cette fois-ci l'exécution effective des résolutions prises? Professeur Silas, merci.
Merci beaucoup, hein, Félix Moulumba, pour votre intervention. On retrouve à présent Mbanzangungu Victor Onzouzi. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour l'invité. C'est vraiment très intéressant que l'invité parle aujourd'hui de ces dialogues en tant que scientifique. Mais j'ai des préoccupations. Nous savons que dans les dialogues, il y a des concessions. Et les gens ont pris les armes, ils ont tué. Et en principe, il faut dialoguer avec eux. Mais il faut qu'on sache, ou alors le prof pourra me dire quelle est la différence entre celui qui a pris les armes et qui a tué, et celui qui a détourné le médicament qui devait servir à Ebola ou qui a détourné le fonds 145 territoires qui devait servir à construire un centre de santé. Pendant 3 ans, on ne termine pas ce projet et les gens sont en train de mourir. Parce qu'on voit seulement les armes, alors qu'il y a aussi cette criminalité. Donc c'est par rapport à la gestion. Aujourd'hui, les deux blocages qu'on a, c'est le M23 qui a pris les armes et les autres là, je ne sais pas comment on les appelle dans Anituri. Mais vous avez aussi le gouvernement d'autre part, où certains dirigeants du gouvernement, avec les détournements, et sinon avec les violations des droits de l'homme, j'ai dit certains, il y a cette peur-là. La même peur qui est chez le M23, la même peur est aussi dans le camp du gouvernement par rapport à ce genre de criminalité pour certains. Donc il faut qu'on les sache. Et alors, les crimes, par exemple, les crimes contre l'humanité. Professeur, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux crimes contre l'humanité quand on sait que ces crimes sont imprescriptibles? Alors moi, je peux donner une partie des réponses. J'ai dit, écoute, on dialogue aujourd'hui, mais on sait que ce sont des crimes contre l'humanité. Demain même, nos petits-fils viendront. Les crimes contre l'humanité, la prescription va au-delà parfois de 30 ans, ou 30 ans, 20 ans. Donc même si on fait les dialogues aujourd'hui, même ceux qui ont pris les armes hier qui sont dans le gouvernement, qu'ils sachent qu'il y a des crimes imprescriptibles, ils finiront par être arrêtés. Donc dialoguons aujourd'hui. Tout tient des mots assez. Mais ces gens-là, ils seront arrêtés, qu'on le veuille ou pas, à moins que le professeur me dise le contraire. Donc, c'est malheureux. La guerre fait des morts au Kivu, mais ça fait des morts au Congo central. Pourquoi? Parce que ça fait des morts au Bandundu. Parce que l'argent qui devait servir au développement doit aller à la guerre. Et parfois même quand ça va à la guerre, c'est parfois mal géré. On a suivi des généraux qui ont été arrêtés parce que ils ont détourné, ils ont volé, ils ont fait quoi. Donc cette guerre-là, il faudrait pas que les gens considèrent que c'est à Bukavu, c'est à Goma, c'est je ne sais pas où.
La guerre
cette guerre-là est aussi en Banzamungu.
Tout le territoire national. Merci Victor Ndzuzi pour votre intervention depuis le Congo central. Jeannot Louembe vient de nous rejoindre. Bonjour à vous Jeannot Louembe et vous avez la parole. Activez votre micro Jeannot Louembe.
Oui, allô madame.
On vous écoute.
Oui, c'est Jeannot Louembe, hein. Louembe, pas Louembe. Merci madame. Merci du choix fait pour le thème, mais surtout pour la parole accordée. J'aimerais ici humblement dire que l'initiative du dialogue nous est venue des pères des églises au milieu du village. Église catholique, église protestante. Humblement, je l'ai dit. Si on devait nous contacter que de la seule volonté du président, il y aurait pas, on parlerait pas de dialogue. Parce que c'est la première parole qui reste. Ça devient comme une sorte de contrainte pour le président d'accepter enfin ce qu'il refusait pendant plusieurs jours avec énergie. Et ainsi, moi j'ai dit, c'est l'initiative de père de père des églises. Humblement, je l'ai dit, madame. Je suis en train de dire que je me pose la question, c'est quoi qui fait la peur au gouvernement de vouloir un dialogue? Ils disent non, il ne faudrait pas qu'il y ait partage de pouvoir. Mais comment est né ce gouvernement? Par un partage de pouvoir. Ils étaient dans un mariage avec leurs prédécesseurs. Comment voulez-vous, ne voulez-vous plus vouloir être comme vous étiez quand vous veniez à la direction ou de ces pays? C'est quoi le mal dans ça?
Jeannot Louembe, on va répondre aux questions qu'on se pose hein, depuis à l'introduction de cette émission. Comment rentabiliser, on va vous poser cette question aussi, comment rentabiliser cette initiative finalement acceptée par le président de la République, comme vous dites, des pères des églises. Comment rentabiliser cette initiative pour des meilleurs résultats et pour une paix durable dans le pays?
Madame, pour qu'il y ait une paix durable, il va falloir mettre sur la même table ceux qui sont acteurs ou actrices de mots. Mots comme douleur, mots comme souffrance que connaît la RDC. Leur mettre sur la table, leur poser la question, c'est quoi au juste votre problème? Parce qu'ils sont ces maillons faibles par lesquels passe le pays étranger pour pouvoir faire du mal aux Congolais. Et remettant ces maillons faibles dans la chaîne, je pense qu'on aura fermé les portes à tous les pays qui sont en train de nous agresser. Leur poser la question. Il y a la question, par exemple, de on va exclure ceux qui ont touché les armes. Mais le gouvernement, madame, est composé par les gens qui, jadis, ont touché les armes, qui avaient la haine des Congolais, comme ceux qui ont les armes aujourd'hui. Si ces gens vous disaient, parce que vous aviez pardonné, pardonnez-nous, vous allez faire quoi? Le mieux, c'est d'être plus sage, de mettre tout le monde sur la table et de leur dire qu'est-ce qui ne va pas. S'il faut qu'on revienne aux signatures de 2018 qui ont peut-être et qui auraient fâché, mettez ces papiers sur la table et remettez que celui qui a nié sa signature puisse réaccepter et qu'on puisse avancer. Parce que c'est l'élément déclencheur de ce en quoi on est, c'est la colère, le non-respect de certaines signatures, madame. C'est ça la vérité. Voilà ma petite contribution, madame. Merci beaucoup.
Merci, Jano Louembwe. On va accorder la parole à Elvis Kaoya.
Bonjour, madame. Bonjour, docteur Silas. C'est un professeur que j'ai toujours aimé. Je l'ai suivi dernièrement sur Congoman Télévision. C'est ce que je voulais dire, parce que je voulais intervenir depuis mardi. Je ne sais pas si vous me suivez, madame.
On vous écoute, Elvis Kaoya. On vous suit, vous capte 5 sur 5.
Ouais. C'est parce que nous avons toujours suivi la comment les choses se font, comment nous avons commencé avec les députés Dieudonné et Kishi. J'ai dit vraiment intervenir pour vraiment, mais peut-être tous les auditeurs qui ont intervenu depuis les mardis, je pense qu'ils s'est retrouvé. Je peut-être que prochainement, lorsqu'ils seraient invités, ils pourront aussi rectifier un peu ce qu'ils peuvent dire. C'est que je voulais dire quoi. On ne peut pas retendre l'histoire, madame. On ne peut pas refuser ce que notre pays a vécu. Hein? Nous savons ici, de 2001 à 2003, ce qui s'est passé. Hein? L'accord de Lusaka a été mis de côté. Lorsque Joseph Kabila est arrivé dans ce pays, il a accepté de perdre, comme Messanga a toujours dit, accepter de perdre la petite raison pour la grande. Vous pensez aujourd'hui, nous pouvons dire que l'accord qui était signé en 2001, on n'a pas trouvé la paix. Peut-on dire que 1 plus 4 n'a pas résolu les problèmes? Chacun avait le sang. J'avais même pas de ce côté, de l'autre côté. Il y avait des gens que nous connaissons qui sont aujourd'hui veulent donner des leçons aux gens. Alors, ceux qui sont aujourd'hui ont le sang des Congolais dans leurs mains. Et ont quel sang? Ils ont eu des palmes ou des olives qu'ils ont dans leurs mains? Madame, nous devons dire les choses claires. Nous devons dire les choses au clair. Cette situation, si ça persiste, hein, c'est parce qu'on a, on a trouvé déjà des moments. Il y avait des gens qui ont été avisés. Notamment, Vita Kamere a dit devant les Perchois, nous devons dialoguer. Depuis quand? C'est comme le ministre nous suivi, Nico Faye a toujours rappelé les dates, ça fait plus. Bounanga est déjà presque 4 ans. Tout ça, ça fait quoi? Lorsqu'il vous rappelle, mais jusqu'à présent aujourd'hui, parce que c'est ça que nous devons monter, quoi. Le président n'a pas refusé un dialogue. Il a toujours accepté. Mais ce qu'il refusait, c'est quoi? C'est
Elvis Kaoya, vous soutenez donc cette initiative. Et quels sont les préalables, hein, selon vous, pour organiser
madame,
dans les conditions requises? Soyez un peu bref, parce que l'invité doit répondre. Nous sommes à la fin,
oui,
de
madame,
l'émission.
Madame, qu'est-ce qu'il faut, madame? Comme nous le savons, ce qui s'est passé en 2001. Nous avons étudié ça. Nous ne pouvons pas aujourd'hui dire quand ça ne sera pas passé. Il faut avoir des positions claires. Madame, imaginez ce jour-là, l'évêque parle, le cardinal Amogo parle que le président l'air a invité pour un dialogue inclusif. Le soir, nous trouvons, et Martin Moya qui se trouve devant la presse, il dit que c'est l'autre.
On retient, selon Elvis Kaoya, il faut avoir des positions claires. Merci à vous, hein, pour votre intervention, professeur Silas. On va vous accorder la parole. Les intervenants ont insisté plus sur l'inclusivité du dialogue et l'application, des recommandations qui seront issues de ce dialogue.
Madame, j'aimerais ici d'abord remercier l'attention et la contribution combien riche de chacun de ses compatriotes à cet échange. Ici, j'aimerais rappeler aux uns et aux autres que le dialogue n'est pas un duel. Mmh. Un duel entre l'opposition et les pouvoirs en place. Moins encore, un plébiscite pour les bons élèves. Lorsqu'il est question de l'inclusivité, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que la présence d'un acteur apporterait à la résolution de la crise en face de laquelle nous nous trouvons? Deuxième question, est-ce que le fait de mettre à l'écart tel acteur pourrait maintenir les choses dans l'air statu quo? Quelles seraient les incidences que nous connaîtrons une fois que tel acteur est mise à l'écart. Parce que je trouve quand même anormal qu'au niveau de Doha, qu'on considère que ceux qui ont recouru aux armes sont des partenaires avec qui l'on peut échanger. Mais maintenant que le président de la République
au niveau interne, ça se
complique. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Il faudrait ici arracher au Rwanda ce prétexte. Il faudrait arracher au Rwanda ou l'amputer en quelque sorte le prolongement de son bras. Ça, c'est très important. Madame, pour que les dialogues réussissent, il faudrait faire concomitamment, alors que nous sommes en train d'échanger entre compatriotes autour des questions que nous croyons être liées à notre existence en tant qu'État, qui pourrait nous aider demain à ne plus revivre ce que nous avons vécu depuis plusieurs décennies. Il faudrait au même moment, madame, donner à l'État, redonner à l'État congolais les moyens d'exercer ses prérogatives naturelles. Si l'État était fort grâce à ses institutions, l'État allait juger ceux qui veulent recourir aux armes et il n'en aurait même pas besoin parce que l'État aurait les moyens de dissuasion. Si notre service, notre dispositif sécuritaire, notre armée, notre police, notre service de sûreté était suffisamment fort, madame, l'on allait commencer par étouffer différentes velléités que l'on constate aujourd'hui. Parce qu'il faudrait relever ici, madame, pour finir, que nous avons plus de 215 groupes armés qui sévissent sur le sol congolais. Le dialogue est une opportunité qui nous est offerte, tant par le président de la République, mais aussi souhaité par le président de la région. Et donc, il est question pour nous de nous asseoir pour débattre sur les questions existentielles, de redonner à l'État les moyens d'exercer ses prérogatives naturelles.
Merci. Pour qu'on ne revienne pas merci docteur Silas Mimil Makangu. Merci prie, pour d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre participation à cette émission. Bonne suite de programme sur Radio Okapi.